Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h48 et si vous sentez dans le studio, et ben ça sent bon l'outre-mer. Le salon de cuisine d'outre-mer maintenu malgré le Covid-19. Babette de Rosière est avec nous pour en parler,
oui,
chef cuisinière à la case de Babette à Maule dans les Yvelines. Bonjour Babette.
Bonjour, et ben la case de Babette maintenant se trouve à la Porte de Versailles,
ouais. Ouais.
Salon de la gastronomie des Outre-mer. Avec plein d'exposants, plein de choses à manger,
ouais.
Beaucoup de bonnes odeurs, c'est magnifique.
Comment avez-vous fait, Babette de Rosière, pour pouvoir le maintenir quand même, le salon ? Parce que c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de salons reportés. Racontez-nous.
Mais moi, j'ai pas voulu reporter mon salon. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je fais mon salon. Parce que l'année dernière, le salon, on l'a fait en virtuel. Ça, ouais. Évidemment, ça a fait du bien parce que on a été cliqué partout, le monde entier nous a vus, ça nous a donné une grande visibilité.
Ouais.
Mais là, cette année, je me suis dit, il faut de toute façon, et mes équipes m'ont encouragé, tout le monde a mis la main à la pâte, et là, ça y est, on a ouvert. Et je peux vous dire que le salon est magnifique. Il y a tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qui est fait de mieux dans les Outre-mer. Et les Outre-mer sont représentés. Seulement, il est encore plus petit parce qu'il y a beaucoup d'Outre-marins anti-vax. Bien sûr, ils ont entendu l'annonce du Premier ministre. Ils sont annulés. J'ai perdu 40% de mes réservations.
Ouais.
Mais déjà payé et tout.
40% des gens qui venaient justement de l'Outre-mer.
Qui venaient de l'Outre-mer, qui avaient déjà payé leur stand et tout, et qui, quand ils ont entendu le Premier ministre parler de passe vaccinal, ils ont tout annulé.
Donc
j'ai pris le trois quarts du salon.
Ouais.
Mais le salon est magnifique, même de beauté, de chaleur,
ouais.
Puisque le thème, ce sont les épices. Il y a des restaurants différents. J'ai un restaurant qui fait cuisine du monde, un restaurant qui fait la cuisine guyanaise, un restaurant, la case de Babette est là aussi, un restaurant qui fait la cuisine tahitienne, haïtienne, africaine. Enfin, c'est vraiment très beau.
Bon.
C'est très varié, c'est beau.
Bon, donc et c'est jusqu'à dimanche, hein, à la Porte de Versailles. Donc pour les auditeurs qui passent par l'île de France, par Paris, etc., vous allez donc faire un petit tour pour déguster Porte de Versailles. Vous allez voir Babette de Rosière. Vous dites que c'est de la part de Sud Radio.
Sud Radio,
et vous serez bien reçu. Hein.
Exactement, Sud Radio est bienvenue. Et puis nous avons deux nocturnes, le vendredi et le samedi soir.
Donc ce soir, nocturne. Oula.
Ce soir nocturne, demain soir.
Pas abusé du rhum, hein.
Non, avec modération. Mais alors, c'est beau le rhum, ça choque.
Oui.
Alors, j'ai aussi des crêpes.
Ouais.
J'ai un centre de crêpes qui fait des crêpes créoles à base de lambi, à base de langoustes, à base de plein de choses. J'ai un espace marmaille magnifique où les enfants vont apprendre à faire la cuisine avec des comédiens qui vont travailler enfin.
Je viens de prendre un kilo par cuisse, là, Rosine.
Voilà, et l'espace chef avec tous les grands chefs étoilés pour encourager les jeunes qui vont passer le trophée Babette.
C'est ça. On voulait donner un coup de projecteur à vous, Babette de Rosière, bien sûr. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Et on
vous laisse pour...
Tous ceux qui nous écoutent en Outre-mer aussi.
Oui, absolument.
Merci à vous, Sud Radio.
Ouais.
Et j'attends les visiteurs.
Voilà, c'est ça, les auditeurs qui iront vous rendre visite. Merci.
Merci
on
beaucoup.
Poursuit donc dans les petits déjeuners, en fait, les grands débats du matin. Avec vous, Thierry Guerrier, il y a quand même cette annonce ce matin. Il se passe des choses en ce moment, cette fin de semaine, dans la campagne des présidentielles, parce que, il y a cette primaire populaire de gauche. On va voir ce que ça va donner et ensuite les conséquences que ce sera lundi. Mais il y a aussi cette interview à lire entre les lignes de Marion Maréchal ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. En clair, elle dit cette fois-ci très clairement qu'elle ne soutiendra pas sa tante parce qu'elle avait dit à un moment donné qu'elle serait derrière le mieux placé. Là, elle laisse entendre qu'elle ne soutiendra pas Marine Le Pen. Mais elle hésite pour Éric Zemmour. Hein.
Il y a longtemps que Marion Maréchal Le Pen, petite fille de Jean-Marie Le Pen, a pris ses distances avec sa tante. Mmh. Il y a déjà plusieurs années. Donc ça n'est qu'une confirmation. Simplement, là, la mise en scène, elle ne peut pas se permettre un affront absolu à sa tante. Il y a des liens familiaux tout de même. Mais c'est clair que elle la toise. Elle a quitté la politique de ce point de vue-là. Ça n'est qu'une sortie provisoire. l'histoire, évidemment, et elle attend la fin du processus Marine Le Pen pour pouvoir s'imposer davantage comme héritière, au fond, de la ligne politique d'extrême droite de Jean-Marie Le Pen.
Mais est-ce que ça peut porter un coup au Rassemblement National?
Ça porte un coup forcément à Marine Le Pen.
Non, mais des gens qui sont un peu hésitants, quoi. Est-ce que ça peut donner un coup de booster, par exemple, à la campagne d'Éric Zemmour,
qui
était sur un faux plat, à 12-13% dans les intentions de vote, en tout cas, quoi. Alors que Marine Le Pen est à 18,5%, hein, selon notre rolling, quoi.
C'est sûr que c'est nuisible à sa tente, d'une manière très claire. Et c'est un soutien à Éric Zemmour, voilà. Mais enfin, on le sentait, ils l'ont déjà mis en scène, ce soutien, depuis 2019. Ça fait 2 ans qu'elle, en l'invitant à cette réunion de la droite, de l'extrême droite qu'elle avait organisée, elle a apporté un soutien clair à Éric Zemmour. Elle l'a même peut-être lancé, en réalité.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? 0826-300-300, j'aimerais bien vous entendre. Est-ce que ça peut porter un coup au Rassemblement National? Est-ce qu'elle doit se déclarer oui ou non, Marion Maréchal, ou rester neutre, ou est-ce que ça peut être aussi un coup de booster pour Éric Zemmour? N'hésitez pas, vous nous appelez, vous aurez la parole en fait tout à l'heure. D'un mot aussi, Thierry Guerrier, sur cette primaire populaire de la gauche, cette primaire cacophonique quand même, hein, de la gauche, parce qu'il y en a qui en sont de la partie et pas les autres, qui n'ont pas été inscrits.
Hein. Il faut être très clair, c'est une manip organisée par des gens qui ont... c'est une manip, c'est un dispositif qui est presque totalitaire. Des gens qui se permettent, qui s'autorisent à soumettre à un vote, alors qu'ils ont une opposition très ferme des personnes concernées, de soumettre des noms à un vote sans que ce soit l'issue d'une communauté légitime, c'est une attitude totalitaire. Pour autant, ils ont réalisé un coup de génie, parce qu'ils occupent, ils répondent à une attente. Il y a un vide, il y a une demande, à gauche notamment, mais on imagine bien que dans ceux qui se sont inscrits, il n'y a pas forcément que des gens de gauche d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des tentatives de déstabilisation, de manipulation de l'idée. Mais en tout cas,
Les 460 000 inscrits, vous pensez qu'il y a... des gens d'où? Alors, on disait à un moment donné qu'il pouvait y avoir de l'entrisme de chez Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y en a?
Il y a sûrement de l'entrisme des structures politiques de gauche, mais il y a aussi de l'entrisme de gens de droite qui veulent influencer.
Ah bon, des gens de droite, pourquoi?
Mais pourquoi pas? Parce que vous imaginez bien que selon que ce sera Taubira qui sort ou Jadot, c'est pas pareil. Ouais. Certains qui peuvent sortir gagnant de la primaire appelleront peut-être au second tour, face à l'extrême droite par exemple, à voter pour le président de la République, par exemple, s'il est au second tour. D'autres non. Donc ça peut influencer le vote en faveur ou non de Valérie Pécresse. C'est un coup à 3 bandes, tout ça. Donc il y a un certain nombre de gens qui peuvent très bien s'être inscrits. Pour ça, on peut l'imaginer. Mais c'est pas ça le sujet. Ouais. Le sujet, c'est qu'il y a un vide, il y avait un vide, et il y a une très grande attente à gauche, et la réalité de ce qu'ont réussi, de ce point de vue-là, les organisateurs de cette primaire populaire, c'est qu'ils ont comblé ce vide, et c'est un coup politique de génie.
Je ne sais pas. Alors, on pose la question, en tout cas, sur les réseaux sociaux ce matin, Cécile.
On pose la question, justement, sur cette primaire populaire. Est-ce que c'est une relance populaire, une division, un rassemblement, une défaite plus sévère? Alors, vous êtes très sévère, hein, puisque vous dites ça, à 79%, une défaite très sévère. Et Jackie nous dit, la gauche semble oublier l'image d'elle-même qu'elle a montrée durant 5 ans, négligeant aussi le cadre de vie et les mots du peuple. Et Marie nous dit carrément mascarade ou l'art.
C'est pas démocratique. Les règles de la démocratie ne sont pas respectées.
Oui, relance populaire ou rassemblement, ça ne récolte que 3%. À l'image des sondages d'Anne Hidalgo ou de Christiane Taubira.
On est plus
pour l'instant
sur la défaite sévère et la division.
D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le club des 3%. Vous avez vu, alors même si Taubira monte un peu, parce qu'il y a donc d'un côté Anne Hidalgo depuis un petit bout de temps, il y a Fabien Roussel qui aujourd'hui qui monte à 3%, il est même devant, selon certaines enquêtes. Ça ne s'est pas vu depuis 1969, qu'un candidat PC soit devant un candidat PS dans les intentions de vote. Depuis 1969.
Il est cohérent, Fabien Roussel, il y a une logique.
Oui. Qu'en
pensez-vous?
Dans un instant, il est à peine réveillé, mais quand même, il a ouvert les yeux, il est avec nous, c'est Éric Revel. Revel en campagne, parce qu'il a veillé très tard hier soir. Il était face à l'un des contradicteurs en tout cas pour poser en fait des questions de façon très neutre à Jean-Luc Mélenchon dans l'émission Face à Baba qui a cartonné sur les réseaux sociaux, je ne sais pas en termes d'audience, on verra tout ça tout à l'heure à 10h avec Valérie Expert et Gilles Gansman, mais il est avec nous, Éric Revel, et il nous dira
c'est
tout d'ailleurs des
coulisses.
C'est un
peu notre cheval de Troie dans la campagne présidentielle. Allez, à tout de suite. Il ne manque plus que le cheval.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Simplement les pronostics.
Comment vous êtes coupé la chic.
Simplement les pronostics, ça ira. Ne vous inquiétez pas. Allez,
Et tout de suite, Éric Revel en campagne.
Sud Radio présidentielle 2022.
Et bonjour Éric.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick.
Ça va ?
Oui, ouais, ça va, ah, ça va.
Parce que vous avez veillé tard quand même.
Oui, 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 c'était une belle émission. Hein.
Oui,
donc c'est violente. Hein.
Oui, voilà. Face à Baba, hier soir, il y avait Jean-Luc Mélenchon qui était l'invité principal, une dizaine de contradicteurs, pour ou contre ou neutre, et vous faisiez partie de ces gens qui l'ont posé des questions sur l'économie, notamment, donc dans le milieu, dans le cœur de l'émission. On va y revenir dans un instant sur les coulisses, mais justement, il y a une question qui était sous-jacente dans ce que vous avez en fait abordé hier autour de la santé, parce qu'il y a eu le scandale Orpea, cette semaine, maison de retraite, la politique de la dépendance. C'est un vrai sujet. Que proposent les candidats à la présidentielle ?
Oui, c'est un vrai sujet, et avant de vous dire ce que les candidats proposent, cher Patrick, il faut quand même se rappeler qu'en 2017, Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, avait promis une grande loi sur la dépendance, assortie de 10 milliards d'euros d'investissement. C'est lui qui avait dégainé le premier, hein, une promesse de Macron, réaffirmée en 2020, mais qui sera finalement tombée aux oubliettes de ce quinquennat, parce qu'il a dit que la crise sanitaire était forte, que la réforme des retraites l'empêchait de mener à bien ce projet sur la dépendance et la vie de nos seniors. Bon, tout ça est resté sur le quai, mais beaucoup de gens attendaient cette loi de dépendance d'Emmanuel Macron, qui n'est pas venu. Mmh. Alors, les candidats, qu'est-ce qu'ils proposent ? J'ai regardé dans le détail. Certains candidats avaient travaillé le sujet un peu en amont, hein, et puis d'autres, évidemment, comme d'habitude, ils surfent sur l'actualité, ils font des propositions au moment où le groupe Orpea dont vous parliez est accusé de maltraitance dans ses EHPAD. Alors, à gauche, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, pour commencer par lui, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, ils imaginent un grand service public, bon, pourquoi pas, avec 200 à 300 000 emplois créés dans le secteur de la santé et dans les EHPAD, 200 à 300 000, hein, suivant les candidats, avec une revalorisation des salaires des personnels. C'est vrai qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, mais on ne sait pas combien ça coûte. Et puis on ne sait pas comment le budget de l'État exsangue financièrement paiera. J'essaie de vous le dire tous les jours. Mmh. Et puis, service public des EHPAD. Bon, on peut considérer que la dépendance, que la vie de nos seniors ne doit pas être confiée au privé. Mais dans ces cas-là, s'il y a un service public des EHPAD, est-ce que ça sous-entend pour les candidats de gauche qu'il va falloir nationaliser les groupes privés aujourd'hui qui s'occupent et qui gèrent des EHPAD avec des actionnaires ? Bon, Anne Hidalgo a rajouté un petit truc, un petit plan de formation comme elle en a le secret. Bon, mais la candidat de PS est quand même relativement flou sur ce sujet, comme sur les autres.
Oui, c'est ça. Quelle approche économique et philosophique, d'ailleurs, pour nos aînés, d'une façon générale ?
Alors, il y a une approche qui est intéressante, j'ai trouvé, c'est celle de Yannick Jadot, dont vous parliez tout à l'heure, d'Europe Écologie Les Verts. Parce que lui, il a une approche différente des EHPAD. Il veut repenser l'habitat des EHPAD, et il opte pour des systèmes solidaires, écoutez bien, de logements de personnes âgées avec, à l'intérieur, des résidences d'étudiants. C'est-à-dire, l'idée philosophique que la transmission entre une ancienne génération et une nouvelle pourrait se faire dans le cadre de ces EHPAD nouvelles manières, où vous auriez des anciens et des jeunes qui cohabiteraient, l'un donnant sa joie de vivre à l'autre et l'autre donnant son expérience et son vécu aux plus jeunes.
Oui, bon, donc voilà, c'est une de ces approches, quoi. Hein.
Voilà.
Possible.
Et puis à droite, Valérie Pécresse, elle veut miser surtout sur les contrôles plus stricts. Elle dit de l'alimentation au temps passé avec chaque pensionnaire de ses EHPAD. Vous voyez, c'est une approche individualisée que propose Valérie Pécresse dans les EHPAD. Mais surtout, Valérie Pécresse souhaite développer l'aide à domicile pour soutenir les personnes âgées chez elles, pour qu'elles restent chez elles. Donc là, c'est une autre approche de la dépendance. On ne crée pas des EHPAD, on ne construit pas des immeubles pour y mettre des personnes âgées. On essaie de les maintenir le plus longtemps possible chez eux. D'ailleurs, les maintenir le plus longtemps possible chez eux, c'est exactement la proposition, hein, comparaison n'est pas raison, qu'avait faite Emmanuel Macron dans le projet de loi avorté sur la dépendance dont je vous parlais en 2017. Bon, chez Zemmour, il n'y a rien pour l'instant. Quant au programme de Marine Le Pen, si elle a le temps de le dégainer avant qu'autre chose lui arrive au coin de la figure...
Ah, on va en parler dans un instant,
c'est attendu
Marion
le 5
Maréchal.
Février.
Hein, vous commencez à nous appeler au 0826-300-300.
C'est attendu le 5 février
prochain, 5 février, ouais.
le programme santé de Marine Le Pen.
Bon, d'accord, très bien, merci. Revel en campagne. Thierry Guerrier, un commentaire sur ce que disait en fait à l'instant Éric Revel, avant d'aller prendre aussi des appels au standard. Je pense que vous appelez beaucoup autour de Marion Maréchal, là, évidemment, avec peut-être ce qui peut être pour certains un coup de Trafalgar. Mais si vous voulez réagir également sur notre politique de santé, vous êtes les bienvenus, 0826-300-300.
Hein. Un tout petit éclairage factuel, ce que vient de décrire à l'instant Éric Revel dans le programme de Yannick Jadot. Yannick Jadot se fonde sur une action déjà menée par certaines organisations, certaines entreprises de HLM, certains bailleurs qui ont organisé la construction de nouveaux bâtiments, de nouveaux grands bâtiments où il y a des HLM, avec une mixité, non seulement une mixité sociale, avec différents niveaux de moyens, avec des gens de la classe moyenne supérieure et aussi de l'appartement HLM, mais aussi un mix de générations, en essayant justement d'appliquer ce que propose Yannick Jadot. Ça existe déjà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a déjà des expériences.
Il y en a un peu.
C'est
minime par rapport à tout ce qui existe sur le marché.
C'est ça. L'idée, c'était justement d'aller un peu plus loin et de permettre ce mélange des générations.
Oui. Éric, il y a quand même une question, en fait, derrière. Qui financie ont décidé de nationaliser à partir de ces 300 000 emplois. Qui peut financer en fait tout cela?
C'est ce que je rappelais hier à Jean-Luc Mélenchon dans l'émission.
Hier soir,
C'est que son programme, il y a 694 propositions. Ça s'appelle l'Avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon. C'est 14 chapitres, vous voyez, c'est presque la Bible de la gauche extrême, ce que propose Jean-Luc Mélenchon. C'est sans doute le programme le plus travaillé, hein. D'abord parce qu'il a le socle de 2017 qu'il a retraité après sa deuxième campagne présidentielle. Mais surtout, la question que je lui posais, c'est expliquez-moi comment avec 2900 milliards d'euros de dettes, vous allez trouver les moyens suffisants, nécessaires pour financer 200 à 300 000 emplois dans le secteur de la santé. Je vous rappelais aussi ce qu'avait dit le gouverneur de la Banque de France. L'état des finances publiques est tellement dégradé qu'on ne peut plus faire ni dépenses supplémentaires, ni baisser les impôts. Ça veut dire, le gouverneur, c'est pas un homme politique, c'est un gouverneur de la Banque de France. Ça veut dire qu'en réalité, vu le niveau d'endettement, on n'a plus de marge de manœuvre. Bon, et là, si vous voulez, il a fait du Jean-Luc Mélenchon.
On va écouter un petit extrait, justement.
Il n'est pas possible de rembourser cette dette. Mmh. Vous le comprenez ? Personne ne la remboursera jamais. Ni en France, ni en Italie, ni en Espagne, ni au Portugal. Tout le monde va faire semblant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une dette arrive à terme, on réemprunte pour le montant de ce qu'on doit rembourser. Bon. Quand vous avez des taux négatifs, tout le monde se frotte les mains.
Les taux remontent, les autres qui payent. Le service de la dette devient un vrai problème.
Mais non, n'embrouillez pas, s'il vous plaît.
Mais j'aimerais qu'on fasse finir. On va revenir sur des choses concrètes.
Oui, vous sommeillez sur votre banc, mais
je sommeillais pas.
Soporifique,
quand même.
Voilà, c'est quand même...
Il avait remarqué que je trouvais un peu le temps long, et il me dit, vous aviez l'air de sommeiller sur votre bombe. J'ai dit, sauf à vous qualifier de soporifique, mon cher Jean-Luc Mélenchon.
Les échanges ont été quand même assez durs, violents pendant toute l'émission.
C'est un peu le concept de l'émission. Bon, la partie économique, à mon avis, c'est une partie centrale et qui intéresse tout le monde, parce que quand on dit que la question du pouvoir d'achat, c'est la question de cette campagne électorale plus que les autres thèmes, on a essayé de la traiter. Il a différentes propositions, Jean-Luc Mélenchon, sur les frais bancaires, sur le SMIC. Et alors, je lui faisais remarquer quelque chose qui l'a un peu fait rire, ou je dirais pas déstabilisé, je dirais pas jusque-là, parce qu'en fait, j'ai fait un teasing au début de mon intervention. J'ai dit, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, je vais soulever tel et tel et tel point, et surtout, je vais vous montrer à la fin pourquoi vous êtes sarkozyste. Alors, évidemment. Parce que sur les heures supplémentaires, il a une position assez claire, Jean-Luc Mélenchon. Il dit, il faut maintenir le temps de travail à 35 heures. Et si le salarié décide de faire des heures supplémentaires, les quatre premières, on lui paye à 25% de plus. Et puis ensuite, c'est 50%. Je dis, mais Jean-Luc Mélenchon, vous réinventez l'eau chaude. C'est le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy.
Il a réagi?
Il m'a dit, mais pas du tout. Mais il a essayé d'argumenter. Mais redonner du pouvoir d'achat à ceux qui n'en ont pas, c'est évidemment une noble cause. On va pas nier
bien
le
sûr.
Sujet. Il y avait, vous l'avez dit, il y avait des manifestations hier un peu partout en France de gens qui défendent le pouvoir d'achat. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que non seulement vous avez un problème de salaire en France, mmh. personne ne peut le nier, mmh. quels que soient les candidats, mais vous avez aussi une résurgence inflationniste qui fait que votre pouvoir d'achat, il est renié à l'insu de votre plein gré. Mmh. Parce que quand vous avez 2, 3, 4, pour l'instant on est plutôt à 3% d'inflation, ça veut dire que même avec le même niveau de salaire, vous perdez de l'argent, mmh. puisque vous achetez plus cher les prix, les produits, puisqu'il y a une inflation. Mmh. Donc cette question du pouvoir d'achat, elle est centrale. Et moi, je pensais que Jean-Luc Mélenchon allait plus l'incarner que cela. Bon, voilà. Après, vous avez suivi peut-être l'émission. Bon, c'était quand même, oui, effectivement, relativement
tendu. C'était musclé. Avec Zemmour, c'était
bon,
musclé.
C'est
avec
Jean-Luc Mélenchon.
Mais est-ce que c'est pas le débat politique qui est très musclé et très tendu ? C'est-à-dire
si, si.
Partout.
Mais vous savez, moi, je vous l'ai souvent dit, hein, le maître mot de cette campagne, c'est la radicalité. Mmh. C'est ouais. la radicalité, à droite, à gauche, chez les Verts. Quand j'entends Aurélien Taché tout à l'heure,
ouais.
Qu'est-ce qu'il dit ? D'ailleurs, il parle de la radicalité de Mme Taubira, ça me fait plaisir parce que c'est mon concept. Mais en creux, qu'est-ce qu'il dit sur Yannick Jadot ?
Qu'il n'est pas assez...
Qu'il n'est pas assez radical.
Ah non, mais totalement. Et qu'il n'est pas assez radical, ou en tout cas qu'il n'arrive pas...
Pour son camp. Donc cette radicalité-là, Mélenchon, il l'incarne...
Si, il a fait une tentative devant Macron. Il a essayé de sortir un peu de...
Au Parlement de Strasbourg, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Mélenchon, il est dans ce sillon-là. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se laisser piquer le concept de radicalité. C'est pourtant... Pour l'instant, lui qui est en tête des intentions de vote
à gauche.
Donc, il ne veut surtout pas, à mon avis, et il ne veut pas se départir de cette radicalité. Même si parfois, pardonnez-moi, ça a frisé quand même la violence absolue. Hein, notamment face aux policiers qui étaient sur le...
Non, et puis il y a des violences aussi parfois sur le terrain. Quels que soient en fait les combats des uns et des autres et les opinions, ça ne doit pas conduire à de la violence physique, s'est passé en fait ces derniers jours, qui vise en fait des élus. Parce que ça, c'est quand même dangereux. Parce qu'à un moment donné, qu'on ne soit pas d'accord avec eux, mais ce sont des gens quand même qui s'engagent pour la vie en fait,
vous avez
politique
raison, Patrick,
et citoyenne.
Parce que quand on voit
et après,
quand
c'est
on
délicat.
Voit des
qu'est-ce qui va se passer ?
Quand on voit des plateaux aussi violents, il ne faut pas s'étonner que des gens à l'esprit parfois un peu léger passent à l'acte sur le terrain. Ouais. Puisqu'ils assistent à des émissions dont la violence verbale est quasiment extrême et à mon sens, quasiment limite.
Oui. Et il ne faut pas se tenir non plus du niveau d'abstention. C'est un des facteurs qui démotive un grand nombre d'électeurs d'aller aux urnes.
Oui,
on verra à la présidentielle si ça se vérifie aussi. Le Covid ne devrait plus être un facteur gênant pour le vote. Alors,
on n'en sait rien. Attendez. Soyez prudents.
Vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est que cette fois-ci, ça n'aura pas, faut l'espérer, le même impact peut-être qu'au régional ou au municipal. Cette dimension délétère et virulente de la campagne présidentielle peut avoir un avantage aussi pour certains. Regardez Fabien Roussel. Il tire avantage, lui, peut-être, on vient de le voir avec les premiers sondages qu'il donne, peut-être à 5%, d'un positionnement plus modéré, mais plus précis aussi sur la campagne, et qui a remis au goût du jour toute une série de thématiques, dont le pouvoir d'achat, de façon un peu plus construite.
Il a défendu quelque chose qui est populaire, et donc,
il
ne touchait plus...
Roussel, il revient aux bases du Parti communiste des années 90. C'est-à-dire que...
Aux bases de la justice sociale souhaitée par la gauche.
Il est peut-être en train de réussir un truc, c'est-à-dire qu'il est peut-être en train de remettre le Parti communiste français comme audible pour les classes populaires. Marine Le Pen, au FN, puis au Rassemblement National, avait siphonné les classes populaires. J'ai l'impression qu'avec l'affaire de Fabien Roussel sur la nourriture française, sur le produisons français, qui étaient des slogans
le
des années 90
aussi.
Le nucléaire. En fait, il essaie de parler aux classes populaires. Alors, il ne va pas faire 18% non plus d'intention de vote, mais imaginez que Fabien Roussel fasse 5 et plus que la candidate du Parti Socialiste. Mais c'est un tremblement de terre, vous le rappeliez.
Allez
0826 300 300 vous appelle
dans un instant,
dans un
vos
instant
appels
avec
évidemment.
Corinne qui est déjà avec nous.
Non,
dans
un instant.
À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h21, c'est la suite de nos grands débats. Éric Revel est avec nous, Thierry Garrier vous appelle 0826 300 300 et puis dans un instant, à partir de 9h30, on reviendra sur nos données personnelles. Faut-il craindre cette perte de données personnelles? Est-ce qu'il faut effectivement, il est possible encore aujourd'hui de préserver notre souveraineté numérique? Vous voulez nous en parler? 0826 300 300.
Oui, en clair, est-ce qu'on peut être encore indépendant face aux géants en fait du monde? Parce que toutes vos données personnelles, là, tout ce que vous regardez en fait sur vos téléphones, elles sont aux mains des plus grands en fait aujourd'hui en fait dans le monde. Et ça va de plus en plus aussi, évidemment, beaucoup aux Américains, mais également aux Chinois. Regardez les données en fait de l'ensemble des entreprises publiques. C'est qui ? Bah, c'est Microsoft. Aujourd'hui, en fait, ce sont les autres géants aussi qui les ont. Même la SNCF, même Orange utilise l'iCloud d'Américains, et encore les Chinois sont en train d'arriver. C'est un véritable en fait danger. On en parlera en fait à 9h30. C'est un enjeu magistral, mais on en parle très peu dans la campagne parce que finalement, il n'y a que les petites phrases qui intéressent bien souvent. Allez, 0826 300 300.
Avec Corinne qui nous appelle de Chamonix. Bonjour Corinne, bienvenue.
Bonjour Corinne.
Oui, bonjour Sud Radio. Bon. Merci de me laisser la parole. Je voulais juste dire un petit mot à M. Revel.
Oui.
J'ai pas les débats violents à la télé qui font la violence, et l'injustice qui fait la violence. C'est la première cause.
D'accord.
Faut pas noyer le poisson, voilà.
D'accord. Non, mais c'est vrai, non mais ce qu'il voulait dire, c'est que ça peut, bah, en plus, inciter davantage, quoi. Non,
non, mais je ne pense pas.
On a eu des
émissions plus transgressives dans les années 70.
Alors, c'est pas faux. C'est pas faux.
Bon, voilà. Ouais. Bon, on va parler de Marion Maréchal.
Ouais.
Donc, c'était ça le sujet.
Ouais.
Ben, moi, je pense que ça va lui donner un bon coup de boost parce que je considère qu'à l'heure actuelle. Moi,
à qui, à qui?
À Zemmour.
À Zemmour.
Si elle,
ouais,
si elle va avec lui, parce que ce sera la seule qui va se présenter, qui sera charismatique. Ce sera la seule, parce qu'il n'y en a aucun. Hein, parce que Macron, il a de l'aura, mais il ne parle qu'avec la tête, pas avec le cœur. Elle parle avec le cœur, elle va faire du mal. Et en plus, elle a une école, donc elle va avoir un programme tout préétabli, parce que tous ceux de son école, ils sont avec Zemmour. Et donc, je pense que ça peut faire du mal. Ça sera un peu le Bayrou de Macron.
De Macron. Pour Zemmour.
Et je lui conseille de se déclarer le 6 mars, et la carême, ça donnera en plus à leur conviction un coup de boost.
Bon, et alors que vous dites, vous, Corinne, que vous êtes plutôt de gauche habituellement, et alors
Non, mais à gauche, je ne sais pas qui voter. Bon, je vais peut-être voter Roussel, parce que comme ça, ça lui remboursera
sa campagne.
Mais bon, moi, ce n'est pas vraiment mes idées. Moi, c'est plus Ruffin. Enfin, ce serait plus dans l'optique Ruffin. Mais bon, moi, je l'aiderais
à remboursé sa campagne. Et donc Mélenchon, qui était face à Éric Revel hier soir, qui a eu du mal, d'ailleurs, sur l'économie.
Mélenchon, il y a beaucoup de jeunes que j'aime beaucoup dans son équipe, mais moi j'ai peur qu'on redivise encore plus. Macron déjà nous a divisé de plus en plus, mais d'être trop dans l'islamo-gauchisme, j'en ai peur un peu.
Ouais.
J'ai peur qu'on ouvre une boîte de Pandore. Et j'ai un peu mal, moi je suis de gauche, mais j'aime la culture française, j'aime la France, j'aime mon pays, je l'adore. Voilà, j'adore l'histoire, j'adore... Vous savez, moi, ma famille, elle était alsacienne, hein, donc ils sont tous morts dans la guerre, hein, dans les camps de concentration.
Ouais.
Donc moi, j'adore mon pays, et j'ai peur de cette boîte de Pandore. Par contre, sur l'idéologie et ce qu'il dit, c'est intéressant, hein, je ne vais pas dire non, mais j'ai un peu peur, j'ai peur.
Ouais.
Voilà.
Bon, ce qui est intéressant, il y a deux choses en fait. Vous dites que Marion Maréchal peut donner, si jamais elle se prononçait en fait en faveur d'Éric Zemmour, que ça pourrait donner un sérieux coup de booster. Donc coup de booster pour Zemmour et peut-être coup de faucille pour le Rassemblement National et Marine Le Pen. Et puis deuxièmement, vous dites oui, bah finalement Roussel il a raison de parler en fait de certaines valeurs, quoi. Et c'est ce qui le remet sans doute sur le devant de la scène, puisque vous êtes attaché en fait à ça. Commentaire de Thierry Guerrier. Restez avec nous, Corinne. Hein,
oui, mais a-t-elle besoin, Marion Maréchal, d'aller plus loin ? Au fond, elle a fait. Ils ont fait leur coup politique là, avec cette prise de position, qui n'en est pas une tout à fait, je vous répète. Il y a plusieurs raisons, notamment des raisons familiales, de ne pas passer le Rubicon. Mais c'est fait. Symboliquement, elle est dans le camp de Zemmour, c'est perçu comme tel, et c'est un gain pour lui.
Ah oui, vous croyez, oui. Ouais. Éric Revel ?
Ah oui, je partage tout à fait. Elle a pas encore tranché en faveur d'Éric Zemmour. Mais elle a dit qu'elle ne voterait, qu'elle ferait pas campagne pour Marine Le Pen.
C'est ça, donc elle a franchi le Rubicon. On a compris qu'elle était pro-Zemmour.
C'est sûr. Maintenant, je pense qu'en termes de... Parce que c'est aussi de la communication. Comment est-ce qu'elle va atterrir? À quel moment? Quel timing? Sur quelle date symbolique? À quel moment de la campagne d'Éric Zemmour? C'est tout ça qui doit être en train
de... Elle veut pas sembler une prise de guerre. Elle veut donner le sentiment qu'elle est à la manœuvre elle-même par rapport
à ses propres positions. Et puis, il ne faut pas qu'elle apparaisse comme traître à son camp, à son clan et à sa famille. Tout ça doit être pesé au trébuchet.
C'est ce qu'elle dit. bien sûr, elle veut pas qu'il y ait de fracture, en fait, de nouveau. Il y en a eu déjà beaucoup dans la famille, en fait, Le Pen. Et puis, ce n'est pas complètement anecdotique, mais elle est également enceinte, hein, donc 4 mois de grossesse. Donc,
Pas de violence, c'est ça?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elle va s'impliquer, en fait, voilà, elle a peut-être, en fait,
ce
d'autres préoccupations en tête, quoi,
c'est
bien sûr.
Connaître, là, maintenant, aussi. La position de Jean-Marie Le Pen.
Oui.
Ça, ce serait très intéressant de savoir comment il se situe.
Pour l'instant, il a toujours montré, tout en étant critique à l'égard de sa propre fille, oui. qu'il ne oui. la trahirait
oui.
pas,
mais
qu'il
là,
ne
avec
la lâcherait pas.
Mais là, du Parisien, qu'en pense Jean-Marie Le Pen? Est-ce que c'est lui qui lui a conseillé finalement de franchir le Rubicon? Ce serait intéressant de connaître l'avis de oui. Jean-Marie Le Pen. Et là, si il optait en faveur de Marion Maréchal et de son passage chez Zemmour... Là,
ce sera Marine
Le Pen
risque
un siphonnage.
Il n'est pas encore passé chez Zemmour.
Non, mais bon. On fait un peu de politique.
Mais
fiction,
oui, non, mais c'est vrai.
Mais Marine Le Pen, voilà, son électorat peut être siphonné par, par Éric Zemmour.
Bon, merci en tout cas, Éric Revel, à vous, Corinne, Thierry Guerrier. Et si vous voulez continuer d'en parler, je pense qu'il en sera question tout à l'heure chez Valérie Expert, dans les débats, bien sûr, de Valérie, à partir de 11h moins le quart, et dans le zapping de la présidentielle de Gilles Gansman tout à l'heure.
Il y aura un certain Patrick Roger aussi tout à l'heure.
Ah ben ça, invité à 10h.
Oui, c'est ça. Et la question, ouais, la question dans quelques instants, c'est est-ce que quand vous mettez vos coordonnées sur les GAFAM, est-ce que vous avez peur qu'on vous les vole? On en parle dans quelques instants avec l'ensemble de nos invités. Peut-on retrouver une souveraineté numérique et nos données personnelles sont-elles en danger? C'est la vraie question du jour. 0826 300 300. À tout de suite.